Honoré de Balzac, Illusion perdue. Le lendemain, Lucien partit de très grand matin de Marsac pour Angoulême, où il entra vers 9 heures, une canne à la main, vêtu d'une petite redingote assez endommagée par le voyage et d'un pantalon noir à teintes blanches. Ses bottes usées disaient d'ailleurs assez qu'il appartenait à la classe infortunée des piétons. Aussi ne se dissimulait-il pas l'effet que devait produire sur ses compatriotes le contraste de son retour et de son départ. Mais, le cœur encore pantelant sous l'étreinte des remords que lui causait le récit du vieux prêtre, il acceptait pour le moment cette punition, décidé d'affronter les regards des personnes de sa connaissance. Il se disait en lui-même « Je suis héroïque ». Toutes ces natures de poète commencent par se duper elles-mêmes. À mesure qu'il marcha dans l'houmeau, son âme lutta entre la honte de ce retour et la poésie de ses souvenirs. Son cœur battit en passant devant la porte de Postel, où, fort heureusement pour lui, Léonie Marron se trouva seule dans la boutique, avec son enfant. Il vit avec plaisir, tant sa vanité conservait de force, le nom de son père effacé. Depuis son mariage, Postel avait fait repeindre sa boutique et mis au-dessus, comme à Paris, « pharmacie ». En gravissant la rampe de la porte-palais, Lucien éprouva l'influence de l'air natal. Il ne sentit plus le poids de ses infortunes et se dit avec délice « Je vais donc les revoir ». Il atteignit la place du Mûrier sans avoir rencontré personne. Un bonheur qu'il espérait à peine, lui qui jadis se promenait en triomphateur dans sa ville. Marion et Kolb, en sentinelle sur la porte, se précipitèrent dans l'escalier en criant « Le voilà !» Lucien revit le vieil atelier et la vieille cour. Il trouva dans l'escalier sa sœur et sa mère, et ils s'embrassèrent en oubliant pour un instant tout leur malheur dans cette étreinte. En famille, on compose presque toujours avec le malheur. On s'y fait un lit et l'espérance en fait accepter la dureté. Si Lucien offrait l'image du désespoir, il en offrait aussi la poésie. Le soleil des grands chemins lui avait bruni le teint. Une profonde mélancolie, empreinte dans ses traits, jetait ses ombres sur son front de poète. Ce changement annonçait tant de souffrance qu'à l'aspect des traces laissées par la misère sur sa physionomie, le seul sentiment possible était la pitié. L'imagination, partie du sein de la famille, y trouvait au retour de tristes réalités. Ève eut au milieu de sa joie le sourire des saintes au milieu de leur martyre. Le chagrin rend sublime le visage d'une jeune femme très belle. La gravité qui remplaçait dans la figure de sa sœur la complète innocence qu'il y avait vue à son départ pour Paris parlait trop éloquemment à Lucien pour qu'il n'en reçût pas une impression douloureuse. Aussi, la première effusion des sentiments, si vive, si naturelle, fut-elle suivie de part et d'autre d'une réaction. Chacun craignait de parler. Lucien ne put cependant s'empêcher de chercher par un regard celui qui manquait à cette réunion. Ce regard, bien compris, fit fondre en larmes Ève et par contre-coup Lucien. Quant à Madame Chardon, elle resta blême et en apparence impassible. Ève se leva, descendit pour épargner à son frère un mot dur et alla dire à Marion « Mon enfant, Lucien aime les fraises, il faut en trouver. » « Oh, J'ai bien pensé que vous vouliez fêter Monsieur Lucien. Soyez tranquille, vous aurez un joli petit déjeuner et un bon dîner aussi. »
Lucien, dit Madame Chardon à son fils, tu as beaucoup à réparer ici. Parti pour être un sujet d'orgueil pour ta famille, tu nous as plongés dans la misère. Tu as presque brisé dans les mains de ton frère l'instrument de la fortune à laquelle il n'a songé que pour sa nouvelle famille.
Tu n'as pas brisé que cela, dit la mère.
Il se fit une pause effrayante, et le silence de Lucien impliqua l'acceptation de ses reproches maternels.
« Entre dans une voie de travail, » reprit doucement Madame Chardon. « Je ne te blâme pas d'avoir tenté de faire revivre la noble famille d'où je suis sorti. Mais à de telles entreprises, il faut avant tout une fortune et des sentiments fiers. Tu n'as rien eu de tout cela. À la croyance, tu as fait succéder en nous la défiance. Tu as détruit la paix de cette famille travailleuse et résignée qui cheminait ici dans une voie difficile. Aux premières fautes, un premier pardon est dû. Ne recommence pas. Nous nous trouvons ici, dans des circonstances difficiles. Sois prudent. Écoute ta sœur. Le malheur est un maître dont les leçons, bien durement données, ont porté leurs fruits chez elle. Elle est devenue sérieuse. Elle est mère. Elle porte tout le fardeau du ménage par dévouement pour notre cher David. Enfin, elle est devenue, par ta faute, mon unique consolation.
« Vous pouviez être plus sévère, » dit Lucien en embrassant sa mère.
« J'accepte votre pardon parce que ce sera le seul que j'aurai jamais à recevoir. »
Ève revint. À la pose humiliée de son frère, elle comprit que Madame Chardon avait parlé. Sa bonté lui mit un sourire sur les lèvres, auquel Lucien répondit par des larmes réprimées. La présence a comme un charme. Elle change les dispositions les plus hostiles entre amants comme au sein des familles, quelque fort que soient les motifs de mécontentement. Est-ce que l'affection trace dans le cœur des chemins où l'on aime à retomber? Ce phénomène appartient-il à la science du magnétisme? La raison dit-elle qu'il faut ou ne jamais se revoir ou se pardonner? Que ce soit au raisonnement, à une cause physique ou à l'âme que cet effet appartienne, chacun doit avoir éprouvé que les regards, le geste, l'action d'un être aimé retrouvent chez ceux qu'il a le plus offensé, chagriné ou maltraité, des vestiges de tendresse. Si l'esprit oublie difficilement, si l'intérêt souffre encore, le cœur, malgré tout, reprend sa servitude. Aussi, la pauvre sœur, en écoutant jusqu'à l'heure du déjeuner les confidences du frère, ne fut-elle pas maîtresse de ses yeux quand elle le regarda, ni de son accent quand elle laissa parler son cœur? En comprenant les éléments de la vie littéraire à Paris, elle comprit comment Lucien avait pu succomber dans la lutte. La joie du poète, en caressant l'enfant de sa sœur, ses enfantillages, le bonheur de revoir son pays et les siens, mêlés au profond chagrin de savoir David caché, les mots de mélancolie qui échappèrent à Lucien, son attendrissement, en voyant qu'au milieu de sa détresse, sa sœur s'était souvenue de son goût quand Marion servit les fraises. Tout, jusqu'à l'obligation de loger le frère prodigue et de s'occuper de lui, fit de cette journée une fête. Ce fut comme une halte dans la misère. Le père Séchard lui-même fit rebrousser aux deux femmes le cours de leurs sentiments en disant « Vous le fêtez comme s'il vous apportait des mille et des cents. Mais qu'a donc fait mon frère pour ne pas être fêté?
s'écria Madame Séchard, jalouse de cacher la honte de Lucien.
Néanmoins, les premières tendresses passées, les nuances du vrai percèrent. Lucien aperçut bientôt chez Ève la différence de l'affection actuelle et de celle qu'elle lui portait jadis. David était profondément honoré, tandis que Lucien était aimé quand même, et comme on aime une maîtresse, malgré les désastres qu'elle cause. L'estime, fond nécessaire à nos sentiments, est la solide étoffe qui leur donne je ne sais quelle certitude, quelle sécurité dont on vit, et qui manquait entre Madame Chardon et son fils, entre le frère et la sœur. Lucien se sentit privé de cette entière confiance qu'on aurait eue en lui s'il n'avait pas failli à l'honneur. L'opinion écrite par d'Arthez sur lui, devenue celle de sa sœur, se laissa deviner dans les gestes, dans les regards, dans l'accent. Lucien était plein, mais quant à être la gloire, la noblesse de la famille, le héros du foyer domestique, toutes ses belles espérances avaient fui sans retour. On craignit assez sa légèreté pour lui cacher l'asile où vivait David. Ève, insensible aux caresses dont fut accompagnée la curiosité de Lucien, qui voulait voir son frère, n'était plus l'Ève de Loumeau, pour qui jadis un seul regard de Lucien était un ordre irrésistible. Lucien parla de réparer ses torts en se vantant de pouvoir sauver David. Ève lui répondit « Ne t'en mêle pas. Nous avons pour adversaires les gens les plus perfides et les plus habiles. » Lucien hocha la tête comme s'il eût dit « J'ai combattu des Parisiens. » Sa sœur lui répliqua par un regard qui signifiait « Tu as été vaincu. » « Je ne suis plus aimé. » pensa Lucien. Pour la famille, comme pour le monde, il faut donc réussir. Dès le second jour, en essayant de s'expliquer le peu de confiance de sa mère et de sa sœur, le poète fut pris d'une pensée non pas haineuse, mais chagrine. Il appliqua la mesure de la vie parisienne à cette chaste vie de province, en oubliant que la médiocrité patiente de cet intérieur sublime de résignation était son ouvrage. Elles sont bourgeoises, elles ne peuvent pas me comprendre, se dit-il en se séparant ainsi de sa sœur, de sa mère et de Séchard, qu'il ne pouvait plus tromper ni sur son caractère ni sur son avenir. Ève et Madame Chardon, chez qui le sens divinatoire était éveillé par tant de chocs et tant de malheurs, épiaient les plus secrètes pensées de Lucien. Elles se sentirent mal jugées et le virent s'isolant d'elles. « Paris nous l'a bien changé, » se dirent-elles. Elles recueillaient enfin le fruit de l'égoïsme qu'elles avaient elles-mêmes cultivé. De part et d'autre, ce léger levain devait fermenter, et il fermenta. Mais principalement chez Lucien, qui se trouvait si reprochable. Quant à Ève, elle était bien de ces sœurs qui savent dire à un frère en faute « Pardonne-moi tes torts ». Lorsque l'union des âmes a été parfaite, comme elle le fut au début de la vie entre Ève et Lucien, toute atteinte à ce beau idéal du sentiment est mortelle. Là où des scélérats se raccommodent après des coups de poignard, les amoureux se brouillent irrévocablement pour un regard, pour un mot. Dans ce souvenir de la quasi-perfection de la vie du cœur se trouve le secret de séparation souvent inexplicable. On peut vivre avec une défiance au cœur, quand le passé n'offre pas le tableau d'une affection pure et sans nuages. Mais pour deux êtres, autrefois parfaitement unis, une vie où le regard, la parole, exige des précautions, devient insupportable. Aussi, les grands poètes font-ils mourir leurs Paul et Virginie au sortir de l'adolescence. Comprendriez-vous Paul et Virginie brouillés? Remarquons, à la gloire d'Ève et de Lucien, que les intérêts si fortement blessés n'avivaient point ces blessures. Chez la sœur irréprochable, comme chez le poète de qui venaient les coups, tout était sentiment. Aussi, le moindre malentendu, la plus petite querelle, un nouveau mécompte dû à Lucien, pouvait-il les désunir ou inspirer une de ces querelles qui brouillent irrévocablement? En fait d'argent, tout s'arrange, mais les sentiments sont impitoyables. Le lendemain, Lucien reçut un numéro du journal d'Angoulême et pâlit de plaisir en se voyant le sujet d'un des premiers Angoulême que se permit cette estimable feuille qui, semblable aux académies de province, en fille bien élevée, selon le mot de Voltaire, ne faisait jamais parler d'elle. Que la Franche-Comté s'enorgueillisse d'avoir donné le jour à Victor Hugo, à Charles Nodier et à Cuvier, la Bretagne à Chateaubriand et à Lamennais, la Normandie à Casimir de Lavigne, la Touraine à l'auteur d'Éloi. Aujourd'hui, l'Angoumois, ou déjà sous Louis XIII, l'illustre Guèze, plus connu sous le nom de Balzac, s'est fait notre compatriote, n'a plus rien à envier, ni à ses provinces, ni au Limousin, qui a produit du Puitrin, ni à l'Auvergne, patrie de Montlosier, ni à Bordeaux, qui a eu le bonheur de voir naître tant de grands hommes. Nous aussi, nous avons un poète. L'auteur des Beaux Sonnets, intitulé Les Marguerites, joint à la gloire du poète celle du prosateur, car on lui doit également le magnifique roman de l'Archer de Charles IX. Un jour, nos neveux seront fiers d'avoir pour compatriote Lucien Chardon, un rival de Pétrarque. Dans les journaux de province de ce temps, les points d'admiration ressemblaient aux hurrahs par lesquels on accueille les speeches des meetings en Angleterre. Malgré ses éclatants succès à Paris, notre jeune poète s'est souvenu que l'hôtel de Bargeton avait été le berceau de ses triomphes, que l'aristocratie angoumoisine avait applaudi la première à ses poésies, que l'épouse de Monsieur le comte du Châtelet, préfet de notre département, avait encouragé ses premiers pas dans la carrière des muses, et il est revenu parmi nous. L'Houmeau tout entier s'est ému quand, hier, notre Lucien de Rubempré s'est présenté. La nouvelle de son retour a produit partout la plus vive sensation. Il est certain que la ville d'Angoulême ne se laissera pas devancer par L'Houmeau dans les honneurs qu'on parle de décerner à celui qui, soit dans la presse, soit dans la littérature, a représenté si glorieusement notre ville à Paris. Lucien, à la fois poète religieux et royaliste, a bravé la fureur des partis. Il est venu, dit-on, se reposer des fatigues d'une lutte qui fatiguerait des athlètes plus forts encore que des hommes de poésie et de rêverie. Par une pensée éminemment politique, à laquelle nous applaudissons et que Madame la Comtesse du Châtelet a eue, dit-on, la première, il est question de rendre à notre grand poète le titre et le nom de l'illustre famille des Rubempré, dont l'unique héritière est Madame Chardon, sa mère. Rajeunir ainsi, par des talents et par des gloires nouvelles, les vieilles familles près de s'éteindre, est, chez l'immortel auteur de la charte, une nouvelle preuve de son constant désir exprimé par ces mots « union et oubli ». Notre poète est descendu chez sa sœur, Madame Séchard. À la rubrique d'Angoulême se trouvaient les nouvelles suivantes.
notre préfet, M. le comte du Châtelet, déjà nommé gentilhomme ordinaire de la chambre de Sa Majesté, vient d'être fait conseiller d'État en service extraordinaire. Hier, toutes les autorités se sont présentées chez M. le préfet. Madame la comtesse Sixte du Châtelet recevra tous les jeudis. Le maire de l'Escarbas, M. de Nègrepelisse, représentant de la branche cadette des d'Espard, père de Madame du Châtelet, récemment nommé comte, pair de France et commandeur de l'ordre royal de Saint-Louis, est, dit-on, désigné pour présider le grand collège électoral d'Angoulême aux prochaines élections.
« Tiens, » dit Lucien à sa sœur en lui apportant le journal. Après avoir lu l'article attentivement, Ève rendit la feuille à Lucien d'un air pensif.
« Que dis-tu de cela ?» lui demanda Lucien, étonné d'une prudence qui ressemblait à de la froideur.
« Mon ami, » répondit-elle, « ce journal appartient aux Cointet. Ils sont absolument les maîtres d'y insérer des articles et ne peuvent avoir la main forcée que par la préfecture ou par l'évêché. Supposes-tu ton ancien rival, aujourd'hui préfet, assez généreux pour chanter ainsi tes louanges ? Oublies-tu que les Cointet nous poursuivent sous le nom de Métivier et veulent sans doute amener David à les faire profiter de ses découvertes ? De quelque part que vienne cet article, je le trouve inquiétant. Tu n'excitais ici que des haines, des jalousies. On t'y calomniait en vertu du proverbe « Nul n'est prophète en son pays ». Et voilà que tout change en un clin d'œil.
Oh, « Tu ne connais pas l'amour-propre des villes de province, » répondit Lucien. « On est allé dans une petite ville du Midi recevoir en triomphe aux portes de la ville un jeune homme qui avait remporté le prix d'honneur au grand concours, en voyant en lui un grand homme en herbe.
« Écoute-moi, mon cher Lucien, je ne veux pas te sermonner. Je te dirai tout dans un seul mot. Ici, défie-toi des plus petites choses. »
« Tu as raison, » répondit Lucien, surpris de trouver sa sœur si peu enthousiaste.
Le poète était au comble de la joie de voir changer en un triomphe sa mesquine et honteuse rentrée à Angoulême.
« Vous ne croyez pas au peu de gloire qui nous coûte si cher !»
s'écria Lucien après une heure de silence, pendant laquelle il s'amassa comme un orage dans son cœur. Pour toute réponse, Ève regarda Lucien, et ce regard le rendit honteux de son accusation. Quelques instants avant le dîner, un garçon du bureau de la préfecture apporta une lettre adressée à M. Lucien Chardon et qui parut donner gain de cause à la vanité du poète que le monde disputait à la famille. Cette lettre était l'invitation suivante. « Monsieur le comte Sixte du Châtelet et Madame la comtesse du Châtelet prient M. Lucien Chardon de leur faire l'honneur de dîner avec eux le 15 septembre prochain. RSVP. À cette lettre était jointe cette carte de visite. Le comte Sixte du Châtelet, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, préfet de la Charente, conseiller d'État.
« Vous êtes en faveur, » dit le père Séchard. « On parle de vous en ville comme d'un grand personnage. On se dispute entre Angoulême et Loumeau, à qui vous tortillera des couronnes. »
« Ma chère Ève, » dit Lucien à l'oreille de sa sœur, « je me retrouve absolument comme j'étais à Loumeau le jour où je devais aller chez Madame de Bargeton. Je suis sans habit pour le dîner du préfet. »
« Tu comptes donc accepter cette invitation ?»
s'écria Madame Séchard, effrayée. Il s'engagea, sur la question d'aller ou de ne pas aller à la préfecture, une polémique entre le frère et la sœur. Le bon sens de la femme de province disait à Ève qu'on ne doit se montrer au monde qu'avec un visage riant,
en costume complet et en tenue irréprochable. Mais elle cachait sa vraie pensée. Où le dîner du préfet mènera-t-il Lucien? Que peut pour lui le grand monde d'Angoulême? Ne machine-t-on pas quelque chose contre lui? Lucien finit par dire à sa sœur, avant d'aller se coucher, « Tu ne sais pas quelle est mon influence. La femme du préfet a peur du journaliste. Et d'ailleurs, dans la comtesse du Châtelet, il y a toujours Louise de Nègrepelisse. Une femme qui vient d'obtenir tant de faveurs peut sauver David. Je lui dirai la découverte que mon frère vient de faire, et ce ne sera rien pour elle que d'obtenir un secours de 10 000 francs au ministère.